おかしいおかしい。おかしい。
Bonsoir. Levée de l'embargo par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la vente d'armes au gouvernement de la RDC. La décision résulte d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution a été votée le 31 mars dernier. La même résolution précise cependant que la RDC et tous les autres États membres du Conseil de sécurité prennent des mesures pouvant empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect d'armes, cela à tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans les deux Kivu et en Ituri dans la province orientale. Quel bilan dressé de cet embargo aujourd'hui levé? Que peut être l'impact de cette décision pour la pacification du pays? C'est le thème de ce dialogue entre Congolais. François Makiambe, c'est l'un des fidèles auditeurs de cette émission. Il écrit depuis Bukavu au Sud-Kivu sa réaction. Il estime que le bilan de l'embargo est plus que négatif car selon lui, les rebelles étaient approvisionnés en armes et munitions malgré cet embargo. De Mbujimayi au Kasaï oriental, Symphorien Kadiandola se demande quelle garantie le Conseil de sécurité des Nations Unies nous donne-t-il pour que les armes ne soient plus détournées vers les différents groupes armés à l'est du pays. Pour en discuter, nous recevons le député national PPRD Jean Mbuyu, vice-président de la Commission Défense Sécurité à l'Assemblée nationale, et notre député national du MLC Mohamed Boulay, ancien vice-ministre de la Défense, et Karina Terzakian, elle est chargée de programme RDC de Global Witness.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081-05-15-778 ou appelez-nous au 081-890-66-78.
Levée de l'embargo par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la vente d'armes au gouvernement de la RDC. Quel bilan dressé de cet embargo désormais levé? D'après l'ancien porte-parole intérimaire de la MONUC, Michel Bonardo, à côté de l'effet dissuasif de l'embargo, la réduction des conflits armés est perspectible sur terrain en dépit de quelques poches d'insécurité, ce qui constitue selon lui l'impact de l'embargo imposé à la RDC par le Conseil de sécurité. On écoute Michel Bonardo de la MONUC au micro de Pascal Massirica.
Il y a un effet dissuasif de l'embargo et celui-là il est très difficile à évaluer. Maintenant, les faits sur le terrain montrent que les conflits armés sont en diminution constante et en diminution assez accélérée. Hein. Donc, effectivement, il ne reste plus que quelques petites poches de conflits armés
qui causent de l'insécurité.
Qui causent effectivement de l'insécurité, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, on peut facilement dire que l'embargo a eu certains des résultats escomptés, mais évidemment pas tous. Et c'est pour cela que le Conseil de sécurité a établi un certain nombre de règles et demandé aux États membres de se soumettre aux règles qu'il a édictées dans cette résolution 1807.
Voilà, c'était là Michel Bonardo, porte-parole intérimaire de la MONUC. Comme nous vous l'avons dit, nous avons comme invité dans cette émission le député national du PPRD, Jean Mbuyu, qui est aussi vice-président de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir, Jean Mbuyu.
Bonsoir, cher ami.
Voilà, il y a cette levée de l'embargo qui frappait la République démocratique du Congo. D'abord, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la RDC?
C'est une très bonne nouvelle pour la RDC. Parce que c'est presque 10 ans, je crois, depuis 7 ans que cela a été décidé, et cela ne permettait pas vraiment à la République de se défendre adéquatement, ni même d'aider efficacement au départ des forces négatives. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité d'acheter les armes de manière officielle, de manière légale, et cette possibilité d'attaquer avec des moyens adéquats toutes sortes de fauteurs de troubles, que cela, disons, concerne notre pays ou que ces gens-là viennent des pays voisins, je crois que c'est une très bonne nouvelle.
Donc, bonne nouvelle qui va notamment, si on comprend bien, aider la RDC à mieux s'équiper
militairement, et bonne nouvelle aussi, c'est-à-dire une victoire diplomatique, parce que la République démocratique du Congo est réhabilitée comme une entité internationale avec un attribut important de la souveraineté, c'est-à-dire l'usage des moyens forts par le gouvernement pour établir l'ordre et le respect des frontières.
Voilà, nous avons en ligne un autre député, donc un de vos collègues, Mohamed Boulet. Bonsoir, Mohamed Boulet.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Voilà, vous avez suivi votre collègue Jean Bouillou qui a dit que la levée de cet embargo qui frappait la RDC sur la vente des armes, c'est une bonne nouvelle. Jean Bouillou parle aussi d'une victoire diplomatique pour la RDC. Vous êtes d'accord avec lui?
Oui, en partie, je suis d'accord. Mais j'aimerais également dire que c'est un autre... Ça me surprend un peu parce que en 2004-2005... De manière officielle, certains officiels de la Monique nous affirmaient qu'il n'y avait pas d'embargo contre la République démocratique du Congo en ce qui concerne l'acquisition des armes, mais par contre il y avait l'embargo pour les groupes armés. Cela a créé quand même une certaine ambiguïté, mais aujourd'hui, si le Conseil de sécurité, nous savions qu'un jour on arriverait à cela. Parce que, comme vous savez, la prise de telles décisions, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité pèsent de tout leur poids pour imposer peut-être la décision. Mais aujourd'hui, si maintenant cet embargo-là est levé, c'est une très bonne chose, ce qui permettra à notre pays de pouvoir faire face à la situation logistique, parce que, vous savez, les hommes, il faut leur donner tous les moyens nécessaires pour faire face à leur mission. Dans ces cas-là, je peux dire bravo. Mais par contre, quelles seraient alors les mesures d'accompagnement en ce qui concerne, quand nous savons qu'en Afrique, il y a quand même 8 pays africains qui sont fabricants de certains armes. Je ne pourrais pas me permettre de les citer ici.
Okay. Voilà. Donc, vous rejoignez un peu Jean Bouillou pour dire que c'est une bonne nouvelle. Puisque c'est une bonne nouvelle, mais quand on revient au bilan de cet embargo, Jean Bouillou, est-ce qu'on peut dire que cet embargo a été respecté?
Bon, il est évident que sur le plan purement formel, nous pouvons dire que l'embargo a été respecté parce que nous n'avons pas pu effectuer d'achat d'armes directes auprès de soit d'un État ou soit d'une entreprise privée. Il est vrai que lorsque nous devions nous défendre contre l'agression, nous avons dû nous procurer à gauche et à droite des armes. Et je peux vous dire, puisque je sais de quoi je parle...
Quand vous dites non, c'est-à-dire
la République. Oui, la République. Et je peux vous dire... que nous avons eu beaucoup de déboires dans ces achats, instantanés ou ponctuels en vue de se défendre contre des agressions. Donc c'est pas une façon normale d'acheter des armes. Il faut permettre à un pays de s'adresser à un autre pays ou à une entreprise bien connue et de se faire fournir des choses régulièrement.
Est-ce que ça ne veut pas dire, Jean Bouillou, que là, la RDC a quand même violé cet embargo?
Bon, une violation comme telle, il n'y a pas de pays dans le monde qui soit en état d'impossibilité de se défendre. Je pense qu'il y avait, un chiffre noir de la tolérance en cette matière-là. Nous n'avons pas eu l'occasion d'acheter de manière régulière avec tous les déboires des marchés noirs et de contrats passés la nuit ou des livraisons de nuit. Et tout ça, ça a été mauvais, ça a été désavantageux. Et ce n'est pas un secret que c'est connu que, quand ils sont dans les équipements, ces équipements-là sont achetés par la République.
Voilà. Jean Bouillou reconnaît, il est quand même honnête. Mohamed Boulet, pour avoir été aussi vice-ministre de la Défense, Jean Bouillou reconnaît que la RDC a eu à se procurer des armes et donc en quelque sorte violer cet embargo. Il y a aussi un auditeur, c'est François Makambe. Lui ne parle pas seulement de la RDC, donc des RDC si on peut dire. Il y a aussi les groupes armés qui s'approvisionnaient aussi en munitions. Vous êtes de cet avis?
Oui, je suis de cet avis parce que si sur certains groupes armés, on a mis la main sur des équipements, du matériel de guerre comme des armes en état neuf, ça veut dire qu'ils s'approvisionnaient de quelque part. J'ai souligné tout à l'heure que lorsque nous savons qu'ici en Afrique, nous avons 8 pays qui produisent des armes, ils ne les produisent pas seulement pour eux-mêmes, ils les produisent aussi pour bien les vendre. Mais si l'embargo à ce moment-là était intervenu, intervenu pour la République démocratique du Congo, mais cette décision-là, il faudrait aussi en amont que toutes les dispositions soient prises pour que qu'il n'y ait pas de violation de la part des uns des autres, notamment les groupes armés. Et parce que cela devait normalement intervenir au moment où il y avait déjà le gouvernement de transition, je pense qu'il y a eu quand même des actions diplomatiques pour pouvoir lever cet embargo. On n'en a pas obtenu à ce moment-là.
Ouais.
Et comme conséquence, on a eu beaucoup de problèmes logistiques liés pour les missions à caractère opérationnel pour faire face aux groupes armés et notamment les groupes armés étrangers que nous avons toujours, que nous
reconnaissons
qui sont encore dans notre pays.
Oui,
je pense que cela, c'est vraiment un peu arrivé assez tardivement et parce que sur le terrain, la situation de sécurité s'est dégradée par le fait que la République démocratique du Congo, dans le cadre de l'intégration des forces armées, n'avait pas les moyens nécessaires pour mener les opérations à temps opportun.
Oui. Voilà, on me signale que Karina Terzakian de Global Witness, chargée du programme, vient de se joindre à nous. Bonsoir Karina.
Bonsoir.
Voilà, vous nous trouvez en pleine émission, évidemment, sur le thème que vous connaissez, levée de l'embargo par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la vente d'armes au gouvernement de la RDC. Nous recevons donc dans cette émission avec vous, il y a déjà deux députés nationaux, Jean Bouyou du PPRD et Mohamed Boulay du MLC. Dans l'ensemble, ils saluent la levée de cet embargo. Jean Bouyou a parlé même d'une victoire diplomatique, ce que Mohamed Boulay aussi a soutenu. Quelle est votre lecture comment, au niveau de Global Witness, hein, vous êtes une ONG internationale, comment vous avez accueilli là, cette mesure?
Bon, en fait, nous avons une réaction peut-être un petit peu différente de vos deux invités. Nous estimons que la levée de cet embargo constitue en fait un pas prématuré et je dirais même peut-être un pas en arrière dans le sens que bon dans la région en question si nous parlons essentiellement de l'est du pays l'embargo donc vise principalement les groupes armés qui comme nous le savons ont commis beaucoup d'exactions et de violences contre la population civile. Mais il ne faut pas oublier que l'armée congolaise elle-même, c'est-à-dire les FARDC, différentes unités de cette armée-là, ont elles aussi commis exactement les mêmes types d'exactions, que ce soit les violations graves des droits de l'homme, hein, que ce soit l'exploitation illégale des ressources naturelles et d'autres crimes, même des crimes de guerre dans cette région. Alors, mais à notre avis, la levée de cet embargo côté gouvernemental représente vraiment un pas en arrière, je dirais, et un déséquilibre même face aux réalités sur terrain.
Est-ce que vous pouvez être un peu plus clair pour qu'on comprenne en quoi exactement que c'est un déséquilibre et en quoi c'est un pas en arrière?
Bon, quand nous regardons la situation sur terrain, si nous étudions par exemple les réalités sur le plan des droits de l'homme, hein, il y a eu de nombreux rapports d'organisations internationales, y compris même la MONUC, sur les violations des droits de l'homme commises dans cette région. Et nous constatons que les militaires FARDC sont parmi les principaux auteurs de ces violations-là. Et c'est la même chose quand nous étudions le problème de l'exploitation illégale des mines, qui est notre domaine à Global Witness, que nous étudions particulièrement. Nous constatons que les militaires maintenant sont en train de faire exactement ce que les groupes rebelles faisaient avant, c'est-à-dire exploiter illégalement, extorquer de l'argent et des ressources à la population et commettre également des crimes, des massacres, des viols, etc.
Oui, mais
alors, nous ne comprenons pas dans ces circonstances pourquoi l'attitude et la politique du Conseil de sécurité cible un côté mais pas l'autre.
Comment vous comprenez cette réaction, Jean Bouyou, de Karina Terzakian?
Oui, cher ami, j'ai du mal à comprendre cette réaction. Sincèrement, je suis perdu.
un sociologue français a dit « Qui ne sait pas ce qu'il cherche, il ne sait pas ce qu'il trouve. » Les armes adéquates sont voulues pour équiper les militaires en vue de leur permettre d'être efficaces, c'est-à-dire de défendre correctement le territoire national et donc de défendre la population. Dès lors que vous mettez au point un militaire dans les milieux ruraux, il n'a pas d'équipement adéquat, vous l'obligez automatiquement à aller pratiquer d'autres activités puisqu'il ne saura pas, il saura pas faire sa mission première. Donc le fait de permettre à la République d'outiller correctement les militaires, c'est en même temps les amener à assumer leur devoir de militaire de manière adéquate.
Est-ce que pour, excusez-moi pour revenir à ce qu'a dit Karina, est-ce que vous pensez qu'un militaire congolais par décès mieux équipé, il va moins violer les droits de l'homme, un peu comme l'a dit Karina?
Absolument, parce qu'il aura les moyens d'attaquer et de mettre fin à un désordre. Mais s'il n'a pas ces moyens-là, il se convertit lui aussi en rebelle, en invalidier. Il fait n'importe quoi. Donc le fait de lui procurer ce dont il a besoin réellement, là où il doit faire sa mission, ça l'aide à assumer sa mission. Et donc si il y a eu un constat de militaires qui n'assument pas leur mission correctement dans certains milieux, il faut l'attribuer aussi au fait justement qu'il leur manquait des équipements pour faire leur mission. Et donc je ne partage pas du tout le point de vue selon lequel, puisque les militaires violent les droits de l'homme au fond, et donc il ne faut pas les équiper pour qu'ils défendent mieux le territoire. Non, c'est un non-sens, c'est absurde.
Mohamed Boulet.
Oui, merci. Moi aussi, je suis un peu surpris. Comme je l'avais dit tout à l'heure, madame a dit que l'embargo ne concernait que les groupes armés. Mais comment voulez-vous, lorsque un pays comme le nôtre, à la période des post-conflits, entre d'organiser, d'intégrer les groupes armés pour avoir une seule armée, et alors avoir des hommes sans les matériels adéquats pour leur mission. Il faut un homme, un chef, une mission, des moyens. Donc on ne peut pas intégrer des militaires sans leur donner les moyens nécessaires. Mais je voudrais aussi poser, peut-être aussi répondre à une question,
oui.
Mais le problème de violation des droits de l'homme, mais qu'en avons-nous pas enregistré par différents rapports que même les militaires les mieux armés de la Monique aussi ont commis ici, dans le cadre de leur mission, des violations des droits de l'homme?
Comme pour dire que
certains pays, dont certains compatriotes se sont victimes.
Comme
pour dire que pour personne, donc ce n'est pas une raison pour dire parce que les militaires sans faire même exception. Nous reconnaissons que dans certains cas, il y a certains militaires de manière individuelle isolés qui commettent ces actes-là. Et en ce moment-là, ce n'est pas une raison pour nous, pour la justice militaire, de ne pas s'occuper de ces cas-là, mais aussi les défauts que ces militaires mal équipés, les commandants qui se trouvent isolés, ne peuvent pas avoir le contact avec un chef, une compagnie peut-être détachée quelque part, par faute des moyens de transmission, là, ça pose problème. Si on dit que vraiment, il n'est pas encore temps de pouvoir lever cet embargo-là, ça ne surprend.
Voilà.
Ça peut nous surprendre pour un pays comme le nôtre, comment est-ce que nous allons nous défendre? Avec des mains nues? Non, je ne crois pas.
Voilà. Levé de l'embargo par le Conseil de sécurité des Nations Unies sur la vente d'armes au gouvernement de la RDC, quel peut être, que peut-être, l'impact de cette décision sur la pacification du pays? Vous voulez en savoir plus avec nos invités, restez branchés sur Radio Okapi. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Levé de l'embargo par le Conseil des Nations Unies sur la vente d'armes au gouvernement de la RDC, que peut-être l'impact de cette décision sur la pacification du pays. Arthur Keppel, il est chercheur congolais qui travaille pour Crisis Group, une ONG internationale spécialisée dans la résolution des conflits. Lui, il pense que cette décision est bonne, mais la crainte est que les responsables militaires congolais n'utilisent abusivement les armes qu'ils auront maintenant à importer, car pense-t-il, cela pourrait entraver le processus de pacification qui est en cours. On écoute Arthur Keppel, vient par quel écouter.
Il ne faut pas oublier que pour l'année 2007, il y a eu un record d'abus de droits de l'homme commis par les éléments de forces armées congolaises, les FARDC, et je crois qu'il faut qu'on fasse bien attention. La priorité aujourd'hui, c'est d'améliorer la qualité de l'armée de la RDC, la priorité n'est certes pas arriver à une armée qui soit surarmée et qui peut justement aller vers des dérives qui seront dommageables pour la pacification où il y a encore du chemin à faire en RDC en ce moment.
Jean Bouillou, mais qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? La RDC qui peut maintenant importer toutes sortes d'armes sophistiquées, est-ce que les Congolais peuvent maintenant s'attendre à ce que les FARDC puissent venir à bout des troupes, notamment de Kunda, les rebelles Mai Mai et les FDLR?
Bon, je crois qu'il faut d'abord partir de la conférence de Nairobi. C'est à Nairobi qu'il a été justement décidé que le gouvernement congolais avait en charge de pouvoir contribuer, disons, participer efficacement à ce que les forces qu'on appelle communément négatives puissent être mises à néant. Et donc, mais à cette conférence était déjà posée cette question de moyens. Comment la République va le faire dès lors qu'il n'y a pas de moyens? Vous vous rappellerez qu'à cette conférence, certains pays étrangers avaient proposé de venir dans le pays avec leurs moyens militaires pour mettre fin à, disons, aux opérations militaires de ces forces négatives. Mais il avait été accepté à la conclusion de la conférence que ce n'était pas possible d'admettre des armées étrangères sur le territoire national pour opérer ce genre de mission. Et donc, on a implicitement reconnu à la République le droit de se défendre et de mettre hors d'état de nuire de mettre hors de ses frontières, disons, toutes ces forces négatives. Alors, aujourd'hui, si nous avons la permission d'avoir des armes, d'abord je voudrais rassurer notre compatriote que les armes que nous allons acquérir, il ne s'agit pas d'armes légères qui interviennent dans les attaques entre civils et militaires ou policiers et civils, sur lesquels il y a parfois des risques qui aboutissent à un blessé ou un mort ou quoi. Mmh. Il s'agit d'armes lourdes qu'on ne peut acquérir que pour des raisons de guerre. Il n'y a donc pas d'inquiétude à se faire que ces armes qu'on va acquérir vont être utilisées pour tuer des civils. On n'a pas besoin de ces genres d'armes pour les civils.
Oui, mais maintenant, pour revenir maintenant à la capacité des FARDC de venir à bout des rebelles, des FDLR, est-ce qu'on peut s'attendre maintenant que, avec cet équipement-là, les FARDC seront à même de faire?
Oui, disons, sur le plan purement intrinsèque, ils pourraient le faire, ils pourraient être en mesure de venir à bout, mais il ne faut pas oublier que la guerre n'a pas que l'aspect armement. Et si vous lisez bien les conclusions de la rencontre de Nairobi, si vous lisez également la conférence de Goma, il y a toute une dimension sociologique, il y a toute une dimension, je dirais, civile, pacifique, d'accompagnement, qui intéresse ceux qui veulent mettre fin à une guerre. Et je dirais que ces moyens pacifiques, ces moyens sociologiques, ces moyens communautaires, solidaires, ne sont pas, disons, à négliger et ne sont pas laissés de côté par la République. Ils vont continuer à être utilisés tant qu'il ne sera pas besoin d'utiliser l'arme lourde pour venir à bout de ces conflits. On utilisera les moyens disponibles tels que définis et dans la conférence de Nairobi et dans la conférence de Goma entre les nationaux. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ils vont être là comme un moyen de dissuasion d'abord, mais ensuite à être utilisé si nécessaire, mais tant que nous aurons d'autres moyens de résoudre les problèmes, nous n'utiliserons pas nécessairement ces armes.
Ces armes-là. Mohamed Boulet.
Merci beaucoup. Je voudrais rassurer tout à l'heure, là, un intervenant a parlé, qu'on va acheter n'importe quel arme. Écoutez, le problème de l'armée ou le problème de sécurité, c'est un problème de souveraineté d'abord pour un État comme le nôtre. On ne peut pas monter en puissance et une armée sans définir d'abord les gabarits de cette armée-là. Et en définissant les appareils de cette armée, qu'est-ce qui va être fait? Normalement, au niveau du haut commandement militaire du Conseil supérieur de la défense, on doit pouvoir présenter donc des organigrammes bien précis et de manière claire pour pouvoir déterminer le nombre de troupes que nous avons, que nous allons devoir avoir, en combien de temps. Et à ce moment-là, parce qu'il y a le monographie d'emploi qui détermine que pour telle unité, il nous faut autant d'hommes et, ou de femmes, donc pas plus que cela, et pour tel militaire de telle unité, il faut un tel type d'armement et tel type de choses. Donc ce n'est pas à chaque militaire qu'on va acheter des armes pour qu'il soit muni d'une arme lourde et tout ça, ça s'est déterminé parce que ça a un coût. De la plus petite munition
des petits calibres jusqu'au gros calibre, ça a un coût. Et tout cela, et encore que, il faut que le gouvernement ait la capacité de pouvoir les acquérir, et ça doit être exprimé dans le budget que nous, autorités budgétaires, nous sommes en droit d'examiner pour savoir à quoi est-ce que ça va servir. Donc on ne va pas acheter des armes n'importe comment, il faut encore les échelonner, et pour cela, ce n'est pas avec le budget ordinaire qu'on va les acquérir. Il faut que, certainement, il y ait une loi de programmation militaire qui est une loi pluriannuelle qui puisse permettre au gouvernement d'aller rechercher les fonds pour pouvoir s'équiper et renouveler les équipements. Donc, les armes, il faut les acheter quantitativement pour les besoins, pour les missions spécifiques.
Oui, mais...
Il faut pas acheter des calibres de tout genre quand on n'en a pas besoin. Donc, ça se précise dans certains documents. Qu'on ne peut pas de manière, parce que le temps nous est passé, ne nous permet pas d'entrer en détail.
Oui, oui, mais le Congolais qui suit au niveau, je sais pas, de Rutshuru, disons dans les deux Kivu et même l'Ituri, quand il suit par exemple Jean Bouyou qui dit que cet armement peut servir à la dissuasion et vous dites qu'il faut tout échelonner, Karina, est-ce que vous pensez que ce Congolais peut finalement se dire qu'avec la levée de cet embargo, il peut voir un peu tout ce qu'il y a comme insécurité là-bas se terminer?
Malheureusement, je ne le pense pas, ou du moins pas dans le court terme. Certainement, quand nous avons visité cette région-là ou d'autres régions comme l'Ituri, hein, où il y a eu beaucoup de violence, les gens avec qui nous parlons dans la population nous disent que l'armée est en train de faire exactement ce que les groupes rebelles faisaient avant. Donc, pour eux, il y a très peu de différence sur le terrain. Alors, j'ai bien écouté ce qu'ont dit ces deux messieurs tout à l'heure.
Député
et je comprends bien ce point de vue. Hein. Au niveau du principe, c'est vrai qu'une armée doit être bien équipée et c'est vrai qu'un État a le droit de se défendre. Mais il faut voir vraiment la réalité sur terrain. Et quand on voit la façon dont ces militaires se comportent, vraiment, et les violences qu'ils sont en train de commettre, même sans armes sophistiquées, l'idée que cette même armée pourra maintenant se procurer d'autres armes sans problème, vraiment, c'est quelque chose de très alarmant, d'autant plus que le processus d'intégration des différentes unités, des différents groupes dans l'armée nationale n'est toujours pas complet. Hein. Ce processus n'est pas fini et actuellement, il y a toujours des groupes, des unités militaires, soi-disant, mais qui ne sont pas intégrées, des brigades entières parfois, qui échappent complètement au contrôle et au commandement au niveau national. Donc, et maintenant, depuis la levée de cette partie de l'embargo, même ces unités-là pourraient avoir accès à des armes sans restriction. Alors, vraiment, c'est inquiétant, je le répète, par rapport, non au principe, mais par rapport à la réalité et comment ces groupes se comportent sur terrain. Et juste un dernier point, il y a aussi, bien sûr, différentes alliances entre certaines unités militaires et ces mêmes groupes armés qui font l'objet de l'embargo actuellement. Donc, à mon avis, ça n'a pas beaucoup de sens de dire, bon, tel groupe armé, vous ne pouvez pas recevoir d'armes, telle unité militaire, oui, vous le pouvez, et en fait, peut-être que cette unité militaire est en complicité avec ce groupe armé, pourra lui transmettre certaines armes, ou même que le groupe armé pourra voler les armes appartenant aux militaires. Donc, la situation n'est pas si claire que ça, et c'est pour ces raisons-là que vraiment je ne suis pas d'accord avec la conclusion que la levée de cet embargo va mener à une amélioration de la situation sur le plan des droits de l'homme.
Oui, vous avez soulevé notamment, vous avez dit que l'équipement ne suffit pas, il y a aussi le comportement du militaire sur terrain, mais vous soulevez aussi un problème concernant peut-être la surveillance de l'embargo, parce qu'il faut dire que l'embargo a été levé, ça profite à la RDC, donc à l'État. Mais par contre, pour les groupes armés, la résolution des Nations Unies, nous l'avons dit dans l'introduction de cette émission, précise que tous les autres États membres du Conseil de sécurité doivent prendre des mesures pour empêcher la fourniture, la vente et le transfert direct ou indirect des armes à tous les groupes armés et milices. Hein. On parle des groupes qui sont dans les deux Kivu et l'Ituri. Mohamed Boulé, comment ça va se passer? Comment la RDC peut faire pour éviter que les groupes armés qui sont dans les deux Kivu et dans l'Ituri ne puissent pas justement avoir accès aux armes.
Merci beaucoup. Je pense que vous venez de l'évoquer là. Dans votre introduction, vous avez dit que l'embargo concernait le gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'achat des armes. Mais moi, pas entendu dire que cet embargo concernait les groupes des armées. Et en plus de cela, je vous ai entendu dire que dans cette résolution, on recommande à tous les pays membres du Conseil de sécurité, dont la République démocratique du Congo, notre pays, bien entendu, fasse tout pour ne plus permettre à ce qui est circulation, vente d'armes aux groupes armés. Je pense que là, c'est de la volonté de tout le monde de s'impliquer. Nous sommes entourés par 9 pays voisins. Nous avons 10 721 kilomètres communes avec 700 kilomètres de frontières communes avec ce pays-là. Donc c'est pour nous, nous allons, en ce qui nous concerne, respecter et prendre les mesures d'accompagnement pour cela, tout en sachant que nous avons à faire, parce que jusqu'ici, nous ne sommes pas encore parvenus à neutraliser complètement les groupes armés, et encore moins les autres groupes FDR que nous sachions. Ça, c'est vrai. Mais madame est en droit de donner son point de vue. Je pense que cette résolution qui est prise, elle n'est pas en droit de dire qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Mais juste où elle veut que nous allions subir cet embargo-là, et au moment où certaines initiatives étaient prises pour aller traquer les intérêts à moi. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à un certain moment, on a eu à faire face à certains problèmes de la logistique. Les médias même ont évoqué de manière dramatique le problème de logistique lié soit aux munitions et à la rupture des choses. La logistique qui doit accompagner les militaires, donc ça renferme beaucoup de classes, ça renferme 10 classes, ça va des équipements individuels, de l'habillement jusqu'aux médicaments, jusqu'aux gros moyens, donc les matériels, que ce soit des avions, que ce soit des bateaux et j'en passe, des véhicules, des motos. Donc c'est ça la logistique, et ça coûte énormément cher pour un pays comme l'autre en période de post-conflit. Nous sommes conscients de cela. Il y a des problèmes, qu'il y a encore des armes qui sont détenues. Je dois vous dire ici que dans les études que certains mènent, certaines agences ou certains indépendants ou analystes mènent, il y a peut-être 60% d'armes de petit calibre qui sont détenues à travers le monde par des militaires, par des personnes qui ne sont pas militaires. Donc, bien entendu, même ici, dans notre pays, ces problèmes se posent avec acuité, parce qu'il y a des armes qui sont détenues par des gens qui n'ont pas le droit de les détenir.
Voilà.
Nous interpelle et la police et tous les services de sécurité et la population des bons citoyens de pouvoir dénoncer les personnes qui détiendraient ces armes pour assurer la sécurité.
Ouais.
Parce qu'on ne sait pas très bien, la nuit, certaines personnes peuvent improviser habillé en uniforme militaire avec des armes et commettre, et on va dire que ce sont des militaires.
Oui.
Donc je ne suis pas d'accord avec madame, parce que quand je vois très très mal que les militaires, sans faire même exception, ça veut dire que tous les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo commettent des actions, ce n'est pas vrai.
Oui.
Et reconnaissant que certains commettent, il ne faudrait pas généraliser de manière, il ne faut pas tout dire les militaires connaissent les forces armées. Et ils font pratiquement ce que les rebelles faisaient.
Merci, madame.
Il faut quand même qu'il y ait de la mesure.
Merci Mohamed Boulet. Jean Bouillou, puisque Mohamed Boulet a évoqué le problème de mesures d'accompagnement. Quel type de mesures il faut prendre pour que, parce que l'État congolais, le gouvernement, et même vous, en tant que député, vous êtes concerné pour que les groupes armés qui sont dans les deux Kivu et l'Ituri ne puissent pas avoir accès aux armes. Que l'embargo profite, la levée de l'embargo profite réellement à l'État congolais et pas aux groupes armés.
Oui, merci. Si j'ai bien compris, madame
Karina,
je crois qu'il y a deux niveaux auxquels il faut se situer. Le niveau de la défense de l'État, ou du moins le niveau où le gouvernement doit défendre le territoire national et sa population, et les biens de cette population et ses biens, et le niveau où, une fois ces moyens mis sur le terrain, entre les mains des gens, et ces moyens n'arrivent plus à l'objectif qu'on s'est fixé au départ, donc n'atteignent plus leur but. Et donc, elles s'inquiètent du fait que nos propres militaires, détenant ces nouveaux moyens, ne puissent les troquer contre
les
groupes armés, parce qu'il y a la poursuite du lucre, ou ainsi de suite. Alors moi, je dirais que ça, c'est un deuxième niveau de problème. Résolvons d'abord la question de permettre au gouvernement de disposer des moyens dont il a besoin pour défendre le territoire national, la population, les biens.
C'est pourquoi il y a eu la levée de l'embargo.
Mais non, il n'est pas dit que la levée de l'embargo résout tous les problèmes du terrain. À ce niveau du terrain, justement, le gouvernement aura toujours besoin de la contribution des ONG dans la dénonciation de, disons, des dérapages dans l'utilisation de ces moyens ou dans leur, disons, conservation, protection. Alors là, c'est une autre question maintenant qui devient une question d'organisation interne au sein de l'armée. Et il ne s'agit pas là à confondre avec les moyens même. Et je suis tout à fait d'accord que tout ce qui va contribuer, comme l'a si bien dit l'honorable Boulay, qui est également le rapporteur à la commission défense et sécurité au Parlement, comme il l'a si bien dit, il y a des questions donc de discipline militaire qui interviennent à différents niveaux. Et c'est pour cette raison qu'il existe une cour d'ordre, disons, il existe la justice militaire, ce qu'on appelle la justice militaire, pour appliquer le droit pénal militaire et sanctionner. Et toutes ces institutions, évidemment, doivent être renforcées au-delà du fait qu'on va acquérir de nouveaux moyens matériels de défense.
Oui, là, vous répondez à une question qui vient de nous arriver. Elle vient de Goma, c'est Fumu Dominique, qui dit comment faire pour que, lorsque la RDC va se procurer des armes, les responsables militaires ne puissent pas les trafiquer auprès des groupes armés. Vous y avez répondu. Mais la RDC, comment elle va faire pour des zones comme les deux Kivu et l'Ituri, que la RDC ne contrôle pas, les zones qui sont contrôlées par Kunda, par exemple, ou par des Maïmaï ou des FDLR, comment la RDC va faire pour surveiller le trafic d'armes dans ces zones?
Non, d'abord,
en un mot, s'il vous plaît.
Oui, en un mot, d'abord, il ne faut pas dire que la RDC ne contrôle pas ces provinces-là. Nous les contrôlons à plus de 90%. Ces groupes, les fameux groupes, sont isolés dans des coins. Ce n'est pas eux qui contrôlent la ville entièrement. Alors, là, je crois qu'il y a toute une démarche qui a été inaugurée. Nous avions eu une option de faire des moyens forts. La communauté internationale a dit non, il faut reculer. Le bon moyen, ce n'est pas d'y aller par la force. Il faut un moyen de dialogue, il faut dissuader, il faut négocier. Et tous ces moyens ont été engagés jusqu'à la conférence de Goma, que je trouve qui était une heureuse initiative. Alors, je crois qu'il faut prendre ça comme un processus. Il ne faut pas dire quelqu'un a un coup de baguette magique qu'il va faire sur une table pour résoudre. Non, c'est un processus.
Ça va demander un peu de temps.
Oui, ça va demander du temps et on va donc, on va donc organiser la situation, gérer la situation avec le temps.
Voilà. On accueille Kelly Nkouté. Bonsoir Kelly.
Bonsoir Chabani.
C'est pour nous donner la réaction des auditeurs.
Effectivement, Moukoussa Chabani Abouna dans la province orientale pense que c'est une bonne nouvelle parce que les forces négatives ont longtemps profité de cette situation pour asseoir leur autorité à l'est du pays. Maintenant, le gouvernement sera en mesure de se défendre contre elles. Michel Akikwit dans le Bondoundou, lui, il dit ceci, que la levée de l'embargo ne profite pas aux généraux et aux politiciens comme fonds de commerce pour ravitailler les groupes armés. Michael, depuis Ouvira dans la province du Sud Kivu, salue cette levée de l'embargo car le gouvernement de la RDC n'aura plus de prétexte pour former une armée forte, équipée et dissuasive. Pour Mongoji Philippe de Bandaka dans la province de l'Équateur, cette levée de l'embargo doit être suivie par des mesures d'accompagnement afin d'éviter le réarmement des hors-la-loi. Et enfin, Narcisse Massamba Kinshasa estime que la levée de l'embargo va encore accroître l'insécurité dans le pays, surtout à l'est où les groupes armés sèment plutôt des troubles.
Merci beaucoup, Kelly Nkouté. On commence par vous, Karina Tervakian. Je rappelle que vous êtes chargée de programme RDC pour l'ONG International Global Witness. Par rapport à ces opinions nous envoyées par nos auditeurs, je prends notamment, on voit celle qui revient de plus en plus, hein, ceux qui pensent par exemple qu'il s'agit de Michel de Kikwit qui craint que la levée de l'embargo ne profite aux généraux et politiciens congolais comme Jean Bouyou et Mohamed Boulay, que ça ne serve de fonds de commerce pour ravitailler les groupes armés. En un mot, hein, essayez d'être bref parce qu'on tend vers la fin de l'émission.
Oui, enfin, je pense que ce risque existe. Écoutez, je pense que si l'armée congolaise se comportait d'une façon, disons, plus satisfaisante et plus professionnelle, cette question serait peut-être moins dramatique. Et Monsieur l'Honorable, tout à l'heure, a parlé de la question de la justice militaire. Je suis contente qu'il en a parlé. Mais en réalité, même s'il y a des tribunaux militaires, Le problème que nous avons, c'est un problème d'impunité généralisée. Il y a très très peu de dossiers concernant des crimes commis par des militaires, et donc la plupart du temps, ces militaires de différents grades, je dirais même à des hauts niveaux, peuvent commettre des exactions et des violences envers la population civile sans crainte d'être poursuivis en justice. Donc je pense que l'une des conditions préalables avant la levée de cet embargo aurait dû être un progrès considérable et visible dans le domaine de la justice pour mettre fin à cette impunité.
Voilà, Mbouy, rapidement, parce que je suis en train de sourire, Karina a dit qu'il a fallu qu'il y ait une évolution au niveau de la justice, des progrès au niveau de la justice avant de lever l'embargo.
La justice est en perpétuel progrès, justement, et dans quelques jours, 3-4 jours, nous serons au Parlement sur, justement, des textes de réorganisation de la justice. Et donc, on ne peut pas.
C'était pas un préalable.
À mon sens, ce n'était pas un préalable. C'est pas un préalable, sinon, c'est mettre la charrue devant le beurre. Il était nécessaire de permettre au gouvernement d'avoir les moyens de sa défense. Ça, c'est une priorité. Deuxièmement, si vous avez suivi les récents accords entre la République et d'autres pays amis qui participent au redressement de son armée, notamment l'Afrique du Sud, la Néerlande et tout ça, il y a eu toute une répartition des tâches pour tous les pays étrangers qui ont voulu aider à la formation de notre armée à différents niveaux. Et je pense, après toute la destruction de l'armée pendant presque 30 ans sous la Deuxième République, il faut reconnaître que le président Joseph Kabila a accepté un programme de remise en état de cette armée. Mais ce programme va se construire sur un certain nombre d'années. Et donc, il faut pas croire que ça va rester comme ça éternellement.
Voilà. Puisque on va essayer de répondre encore à d'autres questions, rapidement de ceux qui nous écrivent, Mongondi Philippe de Mbandaka, il revient sur les mesures d'accompagnement à prendre pour éviter le réarmement de hors la loi. Mohamed Boulet.
Oui, je voudrais rassurer l'intervenant de tout à l'heure pour lui dire il faudrait aussi de temps en temps, lorsqu'il y a des textes de loi qui sont promulgués, il faudrait les lire. Le code pénal militaire est clair là-dessus. Quiconque, par exemple, un général ou un homme politique qui s'hasarderait à dissiper les armes, à les mettre à la disposition, tout ça, mais je pense qu'à ce moment-là, il sera poursuivi pour association de malfaiteurs et les peines encourues sont extrêmement lourdes, allant de perpétuité jusqu'à la peine capitale. Je pense que c'est la justice, c'est à la justice militaire, c'est aussi aux bons citoyens lorsqu'ils constatent que il y a une telle personnalité, comme il l'a dit, peut-être ce sont des allégations, des suppositions, il n'a qu'à dénoncer pour que la justice puisse faire son affaire. Donc les bons citoyens sont là pour ça, pour dénoncer des faits répréhensibles.
Oui, voilà. En un mot maintenant sur les mesures d'accompagnement.
En ce qui concerne les mesures d'accompagnement, je pense qu'ici, nous devons aussi reconnaître que nous sommes en train de monter en puissance la nouvelle armée, et nous avons à faire face à beaucoup de problèmes, notamment le problème des profils de nos hommes de troupes à tous les niveaux, parce qu'à ce moment-là, il faudrait, on a privilégié qu'il fallait intégrer tout le monde, ceux qui sont éligibles et ceux qui ne le sont pas, il faut le remettre à la vie civile. Mais les années, donc, dans le cadre de continuité de la formation continue,
merci,
l'armée doit pouvoir préparer un programme et
voilà,
pouvoir mettre tout le monde à niveau, de façon que ces genres de choses puissent être évitées. Parce qu'on ne peut pas, si on n'a pas les militaires qui ont un bon profil, on ne peut pas cesser de se plaindre comme c'est le cas.
Merci beaucoup, Mohamed Boulay. On va terminer par vous, Jean Bouillou, en un mot, sur ceux qui craignent, comme Narcisse Massamba de Kinshasa, que la levée de l'embargo puisse accentuer l'insécurité à l'est du pays. En un mot, vraiment.
Non, je dis en un mot qu'il ne faut pas craindre cela. Il faut se réjouir que la République a les moyens de se défendre aujourd'hui et demain. Et cela va être bénéfique à tout le monde, parce qu'une armée efficace met fin à beaucoup de hors-la-loi et de rébellions.
Merci beaucoup, Jean Bouillou. C'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à tous les invités. Sylvain Baouguéré qui est à la technique, Anselme Sissimon-Béré à la réalisation, toute l'équipe avec Kéline Couté à la préparation et Jean-Claude Toumba-Kamanga. Nous vous disons merci de rester fidèles à Radio Okapi. Thank you.